Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Alors Vincent, nouvelle qui aujourd'hui là, secoue un peu tout le monde, c'est l'histoire de cet homme jeune et en santé, se présente in extremis, certains diront très très tard, là, à l'urgence de la Cité de la Santé à Laval. Et décède de la COVID dans les heures qui suivent.
Oui, à seulement 39 ans. Et c'est l'âge, d'ailleurs, et dans la nouvelle, vous allez voir que les hôpitaux font des rappels importants sur l'âge maintenant des patients qui sont hospitalisés, particulièrement aux soins intensifs. Et là, donc, cet événement survenu dans la nuit de samedi à dimanche de l'hôpital Cité de la Santé de Laval. Un homme, je disais 39 ans, non vacciné, qui décède là, carrément sur une... Alors qu'on vient de le mettre sur une civière à l'urgence. Effondrement, arrêt du cardio respiratoire, on fait tout pour le réanimer sans succès. Un homme qui n'avait pas de conditions médicales préexistantes. Par contre, c'est le seul membre de sa famille à ne pas être vacciné. Dans les événements, là, ce qu'on a pu savoir, nos collègues de TVA Nouvelles, on dit qu'il s'est présenté à l'urgence. Il est resté environ 7 heures à l'urgence. Il est passé au triage en matinée, le 11 septembre dernier. Sa respiration à ce moment-là, disons, était belle. On dit voire même excellente. On a fait un peu plus tard une vérification de sa saturation en oxygène. C'est souvent ça qui se met à poser problème là, et très rapidement dans des cas de COVID. À ce moment-là, c'était normal. On l'a finalement placé sur civière en soirée vers 21h30 et là, la saturation s'est mise à baisser très rapidement. On lui a administré de l'oxygène et à minuit, il s'est retrouvé en arrêt cardio-respiratoire. Donc vraiment, là, ça a très mal viré. Très, très rapidement. Notre collègue Yves Poirier, aujourd'hui, a parlé aux frères de cet homme décédé. Quand même des informations importantes là-dedans parce que eux tenaient à rappeler, à dire c'est pas un anti-vaccin. C'est quelqu'un qui a tardé à se faire vacciner.
Ouais.
Il avait son rendez-vous. Mais il a attrapé la COVID avant de pouvoir aller à son rendez-vous. Tout simplement parce qu'il a trop attendu et ça aurait très bien pu lui sauver la vie.
Mais il faisait partie d'un groupe d'amis, ce qu'on comprend, qui étaient tous pas vaccinés, là.
C'est ça. Mais il avait pris son rendez-vous.
Ouais.
Mais trop tard, il a contracté la COVID avant et ça l'a tué. Je vais faire entendre son frère qui également se plaint des délais à l'urgence.
On est au choc. On est ici pour la famille. On est supporté, on se supporte, on est une famille qu'on s'aime et une tragédie d'un homme qui était le meilleur homme au monde. Il était supposé être vacciné, il était cédulé pour être vacciné le 2 septembre. Le 2 septembre, OK? Et malheureusement pour lui, il a été infecté avant, donc il ne pouvait pas. Non, il n'était pas pris en main, OK? Comme il faut. Il était 7 heures en urgence. 7 heures en urgence.
Bon, alors le délai long, mais il était quand même sur une civière à ce moment-là. On avait vérifié sa saturation. Malheureusement, ça s'est vraiment... ça a mal tourné très rapidement. D'ailleurs, parlant de l'hôpital, la Cité de la Santé, on entendait aujourd'hui en entrevue également notre collègue Yves Poirier, docteur Olivier Haec, infectiologue, microbiologiste, qui expliquait... Eux, ils ont eu un bond de patients là, dans les dernières semaines et dans les derniers jours. Et ce qui frappe, c'est l'âge. D'ailleurs, il dit le moral des troupes est... chambranlé par tout ça, là. Mais il a donné l'âge des patients qui sont présentement hospitalisés. Et c'est particulièrement préoccupant. Il fait quand même un rappel à l'ordre aux gens non vaccinés à quel point ce qui s'en vient là pour eux dans les prochaines semaines et les prochains mois, ben, c'est la COVID. C'est presque certain, selon lui. On peut l'écouter.
Depuis hier, il y a une augmentation de 8 cas ici à la Cité de la Santé. Donc, pour les étages rouges, on est passé de 14 à 20. Et pour les soins intensifs, de 5 à 7. Je peux même vous donner quelques âges là, de nos usagers qui sont en très grande majorité non vaccinés. 29, 30, 44, 43, 54, 53, 22, 53, 31, 34. C'est très préoccupant. Actuellement, avec le variant Delta, sans trop me tromper, je vais vous dire ceci. soit on est vacciné, soit on attrape la COVID au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Et si on l'attrape, bien, on va voir les conséquences. Ça se peut que ça aille bien, mais ça se peut que ça aille mal, puis ça se peut qu'on contamine notre entourage.
C'est assez clair, hein?
Mais okay. Je pense que c'est la vérité.
Et on voit le virus qui se promène beaucoup, particulièrement à Montréal, mais on se dit dans les prochaines semaines...
Il n'y a pas le premier qui dit ça. Ça fait plusieurs fois que j'entends ça. Et que d'ici Noël, là, le Delta est suffisamment contagieux que d'ici Noël, presque tous ceux qui sont pas vaccinés, presque tout le monde va l'avoir.
Et malheureusement, tu vois l'âge quand même là, des gens, pas beaucoup de...
Non, mais
il n'y a pas une plus de 60 ans.
Non. Puis, je dirais, la moyenne est quoi? 42, 46? La moyenne avec les 30 puis 29, la moyenne est autour de 40. Là.
Absolument. La moitié, presque, c'est en bas de 45. Donc, situation vraiment qui vient difficile aussi pour le moral. J'ai écouté plein de médecins en Alberta, mais chez nous aussi, dont Dr. Eck. Là, et ça commence à être difficile pour le personnel.
En Alberta, aux soins intensifs, il y en a 270. Je pense que 93% sont des gens non vaccinés, là. C'est assez
Ils ont des manifestants aussi, des fois, devant l'hôpital, là, des anti-vaccins. Brilliant. Rien pour augmenter le moral.
Vincent, ton attention a été portée sur une chronique d'opinion du Washington Post, mais écrite pas par quelqu'un de Washington, quelqu'un qui vit chez nous.
Oui, j'ai trouvé ça intéressant, parce que je parcourais le site du Washington Post, je tombe sur une photo de François Blanchette, là, mes grandes photos, là, je dis, OK, qu'est-ce qui se passe? C'est un article d'un journaliste, un collaborateur du Washington Post, qui s'appelle Francisco Toro, qui est un immigrant d'origine vénézuélienne, qui habite à Montréal. Et lui, souvent, commande pour le Washington Post des dossiers concernant le Venezuela. Là. Il parle de la campagne fédérale du Canada et j'ai trouvé ses points très intéressants.
Son regard général sur la campagne, entre autres, en tant que Vénézuélien d'origine.
Oui, parce que certains Canadiens vont dire aux Québécois, c'est plate, là, c'est toutes les mêmes, tu sais, un ou l'autre. C'est pas le même son de cloche, un immigrant qui vient d'un pays où ça va mal, là, comme le Venezuela. Lui explique donc que le Canada...
Et qui a été gouverné par toutes sortes de crackpots qui ont scrappé le pays, l'économie, la liberté, pour vrai, là.
Ben, tout à fait. Lui, il dit chaque vote au Venezuela qu'il a eu là, dans sa vie, c'était dans sa tête une question de vie ou de mort, là, parce qu'on se bat pour notre liberté, notre démocratie. Et là, il dit, je me retrouve à Montréal. Le plus grand enjeu là, pour lui, c'est le financement de la garderie là, des enfants. Est-ce que c'est un crédit taxe ou est-ce que c'est un montant du fédéral envoyé directement aux provinces sans condition? Donc, il dit ça, là, c'est un baume. Il dit, il n'y a rien qui me rend plus heureux de débattre sur des sujets, des enjeux qui sont pas critiques. Là. Et que pour nous, on pourrait voir comme plate, parce qu'il dit, entre autres, le Canada de Justin Trudeau, le Canada d'Erin O'Toole, on parle pas de deux mondes complètement différents, mais des gens
emprisonnés. Ici, on s'entend sur 95% des affaires. Là.
Ben,
on va laisser le Parlement fonctionner, on va laisser tous les ministères fonctionner.
Mais il dit, le système de santé publique universel, là, il dit, c'est pas dans le débat, les grandes politiques économiques non plus, même la légalité du cannabis, c'est plus un dossier controversé au Canada. Les États-Unis n'ont pas connu ça, ce genre d'élection basée sur de la nuance depuis les années 50. Donc, fait une référence historique aux États-Unis, disant que ça s'est beaucoup divisé depuis ce temps-là. Et dit de devoir choisir pour qui on vote sur des dossiers qui sont pas de grands enjeux. Lui trouve que c'est un beau luxe et une liberté de choix parce qu'il dit, moi, je peux voter pour n'importe quel des partis puis il arrivera pas
évidemment, de lui, votre bloc.
Et finalement, au bout de tout ça, là, de son analyse...
Parce que si on a la photo des François Blanchette qui accompagne l'article...
C'est encore plus surprenant, et peut-être certains diront rafraîchissant, si vous êtes dans le camp du Bloc, c'est de voir des immigrants à Montréal qui veulent voter Bloc. Ils disent c'est un exercice intéressant de voir un parti qui veut pas prendre le pouvoir, mais veut tout simplement défendre sa province qui a une langue différente de la majorité canadienne. Ils disent les Québécois ont un peu mis de côté le projet de souveraineté, mais ils disent parfait, on va rester au Canada, mais selon nos termes, et le Bloc est un peu là pour défendre cette partie. Donc, j'ai trouvé surtout l'angle concernant l'élection, là, de dire on a quand même un luxe de travailler sur la nuance au pays dans l'élection plutôt que de défendre des trucs fondamentaux comme la liberté.
Non, je trouve ça très intéressant.
Mais toi qui aimes beaucoup la démocratie et qui a fait partie de la politique...
C'est vrai tu dis ici, même ce qu'on appelle, nous, nos extrêmes, là, tu sais, entre, je sais pas, mettons, plus à gauche, le NPD puis les conservateurs, mais ils s'entendent, mettons, ils voteraient des motions conjointes sur 95% des sujets, là.
Oui, ben il dit d'ailleurs, Justin Trudeau a pas un si mauvais bilan, et Erin O'Toole a l'air est un monsieur sain et compétent. Donc,
il n'y a pas peur de personne.
Pas peur de personne. C'est une bonne chose.
Non, mais j'avais une connaissance, pas un ami, une connaissance qui était vénézuélien, et sous Maduro pis tout ça, osait plus aller parce qu'il est homosexuel, et... Se privait de voir sa mère, elle avait peur, ne voulait plus mettre les pieds dans le pays, là. Puis là, racontait s'il envoyait un peu d'argent dans le pays. Les gens mais là, les gens avaient plus de médicaments. Tu sais, on s'imagine pas c'est quoi un gouvernement qui met la vraie merde dans le pays. Tu sais, on l'oublie. Hein.